Et ben nous accueillons du coup notre seconde partie de Canu Info qui va se présenter bien mieux qu'on l'a fait tout à l'heure.
Bonsoir. Alors nous, on est un collectif d'avocates, de quatre avocates qui avons, au cours de notre expérience professionnelle, acquis un certain nombre de connaissances pratiques sur le monde du droit et sur la justice. Et l'été dernier, pour plein de raisons, ça nous est venu l'idée que ça pourrait être intéressant, chouette, de le partager avec d'autres, parce que le droit concerne tout le monde, la justice aussi, puisque dans le droit, on pense pas forcément. Enfin, il y a les questions de procédure, donc quand on passe devant un juge, mais il y a aussi le quotidien, le contrat de travail, par exemple, lorsqu'on a fait un achat aussi, il y a le droit qui s'applique, et beaucoup, enfin, ça paraît à la fois, c'est à la fois très quotidien et à la fois ça paraît très compliqué et très complexe. Et on se disait que ça pouvait être intéressant de donner des clés pour comprendre ce qui, enfin, pour savoir où s'orienter et comment réagir face à certaines difficultés qui peuvent se présenter. Donc on a proposé cette émission, enfin en tout cas cette rubrique à Canu Info qui a fait le plaisir de nous accueillir, et on propose cette émission s'appellera le fil d'Ariane, c'est-à-dire l'idée étant de donner des informations pratiques sur le droit et sur la justice. L'idée c'est de partir de chaque mois proposer à partir d'une situation concrète très pratique, savoir comment aborder cette question-là, quelle est la procédure qui risque de s'appliquer s'il y a une difficulté judiciaire et qu'on doit passer devant un juge, mais aussi où trouver du conseil, où trouver des informations qui soient pas forcément, parce que l'idée c'est pas de prêcher pour notre chapelle, pas forcément les avocats, mais parfois aussi les avocats parce que ça peut être aussi utile, mais du coup de donner à chaque fois pour certains thèmes ces informations-là, sachant que on ne fera pas de consultation individuelle, enfin on est vraiment sur quelque chose d'assez général, mais par contre qu'on aura à terme, parce que pour l'instant, c'est pas le cas, un blog sur lequel on mettra nos émissions et une adresse mail sur laquelle éventuellement il pourrait y avoir des questions pour des précisions, notamment des informations pratiques. Voilà. Et donc, chaque émission aura un thème assez précis, mais aujourd'hui, on avait envie de faire une émission un peu plus générale sur l'accès au droit et donc d'aborder, dans une première partie, pardon, ce n'était formation professionnelle, la question de qu'est-ce qui se passe quand je suis face à une difficulté juridique et plutôt, après, plus sur je suis convoqué devant un tribunal ou comment je peux faire appel à un juge. L'une d'entre nous veut dire quelque chose.
Oui, donc on avait aussi envie d'expliquer aux auditeurs qu'il y a plusieurs possibilités d'avoir un renseignement juridique lorsqu'on est confronté à un problème. On peut penser à l'avocat, mais ce n'est pas forcément la première étape. Par exemple, en France, il existe depuis les années 1990, le début des années 1990, des maisons de justice et du droit. Ce sont donc des organismes publics et qui offrent à tout citoyen la possibilité d'avoir accès à un avocat, d'avoir accès également à des juristes, à des conciliateurs ou à des délégués de défenseurs des droits. Plus précisément, des permanences sont organisées presque tous les jours. Je vous invite à regarder le site internet de la Maison de Justice et du Droit. Vous aurez les horaires. Mais donc tous les jours, il y a des consultations gratuites d'environ un quart d'heure au cours desquelles l'avocat essaye de comprendre le problème de la personne et essaye de l'aiguiller. L'avocat n'est pas là pour démarcher la personne. L'avocat est vraiment là pour pouvoir aiguiller, c'est-à-dire que voir s'il y a un problème tel qu'il faut effectivement avoir recours à un avocat, ou alors voir si le problème peut également se régler peut-être par la discussion, par des simples courriers, par un conciliateur. Le conciliateur est celui qui va accueillir des personnes qui ont un souci, mais dont le souci peut paraître pas suffisamment important ou pas suffisamment justifié pour que un procès soit intenté. Auquel cas, il y a une personne qui va essayer de concilier, par exemple, deux personnes qui ont des problèmes de voisinage, des personnes qui n'arrivent pas à s'entendre. Il est aussi possible, dans ces maisons de justice et du droit, d'avoir accès aux délégués de défenseurs de droit, des droits, c'est-à-dire une personne qui est à l'écoute et qui va essayer de régler un problème lorsqu'une personne se sent lésée, lorsque ses droits, selon lui, ne sont pas protégés. Il y a également dans les maisons de justice et de droit des juristes qui sont diplômés et qui sont tout à fait à même de pouvoir répondre aux questions juridiques des personnes.
Pour compléter simplement sur l'accès au droit et les lieux où on peut avoir accès justement à des informations juridiques. Donc il y a effectivement, comme disait Madeleine, ces maisons de justice et du droit. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup d'associations qui tiennent des permanences juridiques où on peut se renseigner. Ce sont souvent des permanences thématiques en fonction des associations. Il y a notamment des associations de victimes, beaucoup d'associations dans le domaine du droit des étrangers, dans le domaine de la famille, du contentieux familial, des associations spécialisées sur les questions de violence conjugale, des associations pardon, consommateurs. Donc il y a les associations, il y a les syndicats, il y a les avocats, donc effectivement en maison de justice où il y a des consultations gratuites, mais il faut savoir qu'il y en a également au palais de justice, et puis il y en a également dans certaines mairies. Donc voilà, c'est tout ça pour déjà indiquer qu'il existe de nombreux lieux où on peut trouver des informations juridiques quand on est confronté à un problème et qui peuvent permettre déjà de se renseigner, parce qu'effectivement souvent ce sont des situations compliquées, et de savoir un petit peu déjà où s'orienter, quoi faire, et s'il y a justement quelque chose à faire ou pas. Et avant de se retrouver éventuellement dans une procédure judiciaire.
Alors justement, s'agissant de comment on se retrouve dans une procédure judiciaire, comme on disait tout à l'heure, le droit effectivement est partout, et on peut malheureusement ou heureusement, au contraire, parfois se retrouver devant un tribunal. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, pour résumer, il y a deux types de positions. Soit en gros la justice vient à vous, soit c'est vous qui allez vers la justice parce que vous voulez faire valoir un droit ou contester quelque chose qui vous est arrivé. Donc très concrètement, parce que pour pas parler abstrait, mais très concrètement, on est amené à se présenter devant un tribunal ou une juridiction par plusieurs biais. Alors ça peut être soit une convocation délivrée par la police, je pense notamment au niveau pénal. Ça peut être par lettre recommandée, le tribunal qui vous adresse un document et qui vous demande de vous présenter à telle date, telle heure, tel endroit pour une procédure. Ça peut également être un acte d'huissier, et là c'est effectivement important d'avoir connaissance de ce document pour bien être présent à l'audience du tribunal, et puis surtout se défendre par rapport à ce qui est demandé. Voilà, donc c'est très concrètement les différentes façons par lesquelles on est amené à se présenter devant un tribunal. Et il y a l'autre aspect également, c'est la situation où c'est à vous d'aller devant la justice parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui arrive. Je pense notamment à certains courriers qui peuvent arriver, qui ont l'air anodins comme ça, mais qui en réalité pourraient être des décisions qui par la suite entraîneraient des conséquences importantes pour vous, notamment décisions de la préfecture, conseil général, différentes institutions, différents organismes publics. Également, commandement de quitter les lieux qui peut arriver et qui peut nécessiter une réaction rapide de la personne qui est concernée par ce document. Donc là, si on n'est pas d'accord avec ces éléments, pas d'accord avec ce qui est dans ces courriers et ces décisions, c'est à vous de faire les démarches pour saisir le tribunal. Et là encore, il est toujours préférable, quand on reçoit ce type de document, d'aller prendre conseil tout de suite, vraiment le plus vite possible. D'abord, premier conseil, parce qu'il peut y avoir des délais qui peuvent être extrêmement courts dans certains cas. Parfois non, mais en tout cas, dans le doute, il vaut mieux aller très vite prendre conseil, savoir déjà comprendre ce qui se passe exactement, si c'est grave ou pas forcément, et savoir également comment réagir, anticiper les difficultés. Avant de faire aussi, avant de saisir la juridiction, parce qu'on peut vous proposer de faire une lettre, un recours devant la juridiction, avant de faire ça, prendre les bons conseils aussi et savoir où on va et dans quelle forme il faut faire cette démarche-là. Et puis ensuite, si c'est nécessaire, préparer la suite de la procédure, l'audience, si elle doit se tenir.
Notamment dans le cadre de la préparation de l'audience et la préparation du dossier avec la personne qui va conseiller, il faut savoir que c'est important de préparer tout ça sérieusement. Ça veut dire, quand je dis ça, c'est que c'est important, quand on veut faire valoir ses droits, d'arriver avec un dossier bien constitué, avec des pièces justificatives, et c'est bien d'avoir de l'aide pour ça, parce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre de procédures qui peuvent être engagées seules. Je pense notamment aux procédures devant le juge aux affaires familiales, où on peut remplir seul sa requête auprès du tribunal, la déposer puis attendre l'audience. Mais c'est vrai qu'une fois arrivé devant le juge, parfois ce qui peut être compliqué, c'est de pas être venu avec toutes ses pièces et du coup de pas pouvoir faire valoir concrètement ses droits parce qu'on n'a pas tout bien préparé. Et ce qu'il faut savoir par rapport à ça, simplement parce que notamment dans les procédures où on est entre particuliers, il y a un principe qui est important dans le domaine de la procédure, c'est le principe du contradictoire qui souvent n'est pas connu par les gens. Il faut le savoir parce qu'en gros, c'est de dire que quand vous voulez faire valoir des arguments et des pièces devant un juge, vous êtes obligé en fait de le communiquer, de montrer à celui qui est en face de vous, donc votre adversaire entre guillemets, et que c'est pas juste des documents qu'on va présenter au juge sans que la partie qui est en face de vous, qui soit en défense, soit en demande, puisse faire valoir aussi ses arguments par rapport à ces pièces-là. C'est important parce que c'est vrai que nous, comme avocates, ça nous arrive effectivement de se retrouver dans des procédures avec en face de nous quelqu'un qui est tout seul et qui nous dit je vais pas vous montrer vos pièces, je montrerai qu'au juge. Bon, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe et c'est important de le savoir parce que c'est important de savoir que c'est les pièces que vous allez faire valoir. Il y a pas que le juge qui va les voir, il y a aussi un avocat éventuellement avec son client et que tout ça, ça va faire l'objet d'une communication un peu officielle.
Parce qu'en fait, il y a aussi, enfin, c'est parce que du coup, on est déjà dans le constituer le dossier, le papier, tout ça. C'est que c'est beaucoup un monde de papier, de documents. C'est vrai que nous, on passe beaucoup de temps à essayer de récupérer des preuves. Et enfin, évidemment, l'idée, c'est qu'on fait confiance aux personnes qu'on rencontre et on les accompagne en leur faisant confiance, mais qu'on a besoin que ce soit devant le juge de pouvoir justifier de ce qui se dit. Et du coup, c'est vrai que très souvent, on a tendance à constituer des dossiers avec beaucoup de documents papier, mais parce qu'en fait, la justice en général est quand même vraiment basée sur des documents papier et des preuves. Enfin, je pense en droit des étrangers par exemple, où on aura beau affirmer qu'on est là depuis 10 ans, si on n'a pas les preuves de ça et on a beau le croire et le comprendre, ça sera pas possible. Et c'est vrai que du coup c'est aussi pour ça qu'il y a un gros travail de préparation en amont lorsqu'on est convoqué devant un juge, de rassembler justement ces documents-là, quel que soit le type de procédure, je pense d'ailleurs, parce que pour convaincre, il va falloir aussi pouvoir s'appuyer sur ces documents-là et ce sera pas nécessairement sur la parole ou sur le pouvoir de conviction de l'avocat, parce que on a aussi souvent l'impression que c'est parce que l'avocat aura été très éloquent à l'audience, qu'il aura fait des beaux effets de manche et qu'il aura très très bien parlé qu'on va convaincre. Alors bien sûr qu'un avocat qui plaide bien, ça peut aider, mais concrètement un avocat, enfin c'est surtout le travail qui a été fait en amont, l'argumentation qui a été construite, les documents qui ont été apportés, qui fera que ça pourra basculer en la faveur de la personne qui est là. C'est voilà, on peut faire tous les effets de manche qu'on veut, si on n'a pas un dossier un peu solide et bien constitué, ça sert à rien. Ça fera juste plaisir à ceux qui écoutent, quoi. C'est ce qui est déjà pas mal, mais.
Et je rebondis un petit peu. En droit français, il y a une dualité de juridiction, et donc on peut se retrouver soit devant le juge administratif, soit devant le juge judiciaire. Il faut savoir que devant le juge administratif, la procédure est écrite, c'est-à-dire que le juge ne se fonde uniquement sur les pièces et sur les écritures. Donc le jour de l'audience, nous, avocats, on fait des observations orales, mais qui doivent nécessairement être étayées par les pièces qui sont produites et bien antérieurement au jour de l'audience. Donc il arrive assez régulièrement que les personnes arrivent le jour de l'audience avec des pièces qui veulent communiquer au juge, mais c'est plus possible. Il y a des dates, il y a des délais, en fait, au dépôt de la requête, que nous, avocats, nous devons respecter. Et c'est parfois, pour les personnes, difficiles à comprendre, parce que réunir des documents, ça prend du temps, qu'ils ont parfois pas pu obtenir ces documents auparavant. Mais voilà, en tout cas, l'avocat ne peut pas, l'avocat et le requérant, même si le requérant est tout seul, ne peut pas produire des documents le jour de l'audience. Ce qui est différent dans d'autres procédures. Par exemple, devant le juge des affaires familiales, il est possible, tout en respectant le principe du contradictoire, c'est-à-dire tout en prévenant la partie d'en face des pièces qu'on a en notre possession. Mais voilà, donc toutes ces règles de procédure qui peuvent paraître un petit peu loin du quotidien, un petit peu loin du problème que la personne a et les raisons pour lesquelles elle est venue nous voir, en fait régissent la procédure.
J'ajoute là-dessus, c'est qu'en fait, on a souvent en tête le procès pénal, c'est-à-dire c'est souvent ça qu'on a l'idée, c'est là, c'est je suis convoqué parce que j'ai commis un acte qui est considéré comme un délit. Et là, pour le coup, c'est une procédure orale, donc beaucoup de choses se passent à l'audience et la procédure est pas tout à fait la même. Donc, on a souvent cette idée-là en tête, et ce qui est pas le cas en fait dans beaucoup de procédures. Mais peut-être que pour reprendre aussi, pour revenir un peu à la base, c'est que quand on parle de requérant, donc c'est celui qui est en demande et qui donc veut faire valoir ses droits. Quand on parle de prévenu, c'est celui qui, au contraire, est convoqué par la justice pénale. Et du coup, donc sur une procédure finalement classique, si je suis en demande, c'est moi qui vais faire en sorte de provoquer la machine judiciaire. Alors ça dépend. Si par exemple je suis étranger, que je suis pas d'accord avec la décision qui a été prise à mon encontre, je vais saisir le tribunal administratif. Donc je suis requérant. Et il va y avoir un échange donc de mémoire, donc d'écriture, et ensuite le tribunal administratif va trancher. Si au contraire je suis convoqué devant le tribunal correctionnel, à ce moment-là je suis en défense, et donc je vais pouvoir avoir accès au dossier qui a été constitué contre moi et tenter de faire ces arguments-là. Donc c'est vrai que suivant les procédures, on n'a pas la même position, on n'a pas la même façon de travailler, et c'est pourquoi ça nous paraît important de pouvoir se renseigner. Alors évidemment, les avocats, qui en plus parfois sont obligatoires, pas dans toutes les procédures mais c'est le cas, peuvent être un bon interlocuteur, mais il y a un certain nombre d'associations qui ont l'habitude aussi, ou de syndicats qui ont l'habitude de faire ce type de procédure, en tout cas seront orientés pour le début. Quand on a affaire à un juge, on peut éventuellement avoir droit, donc ça c'était aussi à l'aide juridictionnelle, qui est souvent le cas, puisqu'on peut aussi ne pas avoir les moyens de se payer un avocat, puisque effectivement ça représente un certain coût. Et pour le coup, l'aide juridictionnelle, par contre, elle ne peut on ne peut y avoir droit que quand il y a un juge qui intervient dans la décision, c'est-à-dire quand on est ce qu'on appelle en contentieux. Autrement dit, quand toute la démarche en amont, toute la démarche de conseil, toute la démarche d'accompagnement, alors même qu'elle est très importante, puisque je pense que, par exemple, pour un étranger, l'accompagner dans la constitution d'un dossier de demande de titre de séjour, c'est hyper important, et ça peut justement éviter de se retrouver devant le juge ensuite. Mais ça, pour le coup, c'est pas pris en compte, en charge par l'aide juridictionnelle. Donc, certaines associations peuvent faire ce travail-là. Mais par contre, devant un avocat, effectivement, ça aura un coût qui peut être assez certain.
Mais, du coup, au niveau de l'aide juridictionnelle, par exemple, que ce soit nous qui saisissons la justice ou qu'on soit saisi par la justice, elle marche quand même. Peut saisir l'aide juridictionnelle en saisissant la justice.
Oui, complètement. Après, c'est sous certains critères, des critères de ressources notamment. Je sais plus quel est le seuil.
942 € depuis le 1er janvier 2015.
Donc en gros 940 € au total, enfin pour avoir l'aide juridictionnelle totale.
Pour une personne seule aussi. Ouais.
Oui, parce que pour une personne seule c'est 942 €, et après suivant la composition du foyer il y a des seuils qui montent aussi. Ça c'est pour l'aide juridictionnelle totale, sachant qu'il peut y avoir aussi l'aide juridictionnelle partielle, qui fait qu'il y a une prise en charge partielle seulement des honoraires de l'avocat et de l'huissier, enfin de tous les personnels de justice aussi. Mais effectivement, que je sois en demande ou en défense, je peux bénéficier de l'aide juridictionnelle. L'idée c'est d'avoir un accès au juge de façon générale. Pour l'instant, c'est pour l'ensemble des procédures, sous quelques conditions. Après, on ne sait pas dans quel sens ça peut évoluer.
Alors, petite info pratique aussi, puisqu'on parle d'aide juridictionnelle, toujours très concrètement, pour trouver ces dossiers d'aide juridictionnelle, parce que pour l'obtenir, il faut le demander, c'est pas automatique. Il y a un formulaire à remplir, donc qui est disponible sur Internet. On vous renvoie notamment, parce que c'est le site officiel, servicepublic.fr, où il y a le formulaire SERFA, donc le formulaire à remplir. Il est également accessible, alors, à Lyon, au tribunal de grande instance. Il y a un bureau d'aide juridictionnelle qui est ouvert tous les après-midi, 13h30, 16h30, je crois de mémoire, au Red Jardin. Vous pouvez également obtenir ces dossiers d'aide juridictionnelle dans différents lieux. Je pense aux associations qui conseillent et donc qui donnent les dossiers lorsque c'est nécessaire. Maison de justice et du droit également. Et par rapport au seuil, alors on va peut-être pas tous les donner, mais effectivement, comme repère, pour avoir accès à l'aide juridictionnelle totale pour une personne seule, c'est 941 € par mois, le plafond. Après, il y a des hypothèses de plein droit également. Je pense notamment au RSA et puis à certaines situations. On a un plein droit à l'aide juridictionnelle. Et après, il y a différents seuils, effectivement, selon le nombre de personnes à charge, les situations familiales et personnelles des requérants ou des défendeurs, effectivement, à la procédure.
Il faut savoir que quand on bénéficie de l'aide juridictionnelle, on peut choisir son avocat. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on est à l'aide juridictionnelle que du coup on a forcément, comme on dit un peu dans le langage commun, un avocat commis d'office. Ça veut dire que quand on remplit son dossier, soit en fait on est déjà allé voir un avocat qui a accepté de travailler à l'aide juridictionnelle, parce que pour le coup tous les avocats acceptent pas forcément. Donc il faut pas hésiter quand on prend rendez-vous avec un avocat, quand on appelle un cabinet d'un avocat pour prendre rendez-vous, à demander si l'avocat en question prend l'aide juridictionnelle, ou en tout cas lui poser la question au rendez-vous. Si l'avocat accepte l'aide juridictionnelle, à ce moment-là, quand on remplit le dossier, en fait, il faut demander à l'avocat soit de faire un courrier pour expliquer qu'il accepte, ou soit l'avocat met un coup de tampon sur le dossier. Par contre, on peut aussi ne pas avoir choisi d'avocat ou ne pas en connaître. Et à ce moment-là, on indique dans le dossier d'aide juridictionnelle qu'on demande à ce qu'un avocat soit désigné pour assister la personne. En tout cas, à Lyon, je ne sais pas trop dans les autres villes, mais à Lyon, les avocats sont inscrits sur des listes par spécialité. Donc, en principe, l'avocat qui sera désigné pour vous assister sera spécialisé dans le contentieux qui vous préoccupe. Donc voilà, cette possibilité, c'est quand même important de savoir qu'on peut choisir son avocat. Et d'ailleurs, ça fait la différence avec le...
Parce que ce que tu dis, je pense que c'est important de le rappeler... c'est que les avocats qui sont à l'aide juridictionnelle sont spécialisés dans la matière. Souvent, les justiciables manifestent leur crainte d'avoir un mauvais avocat parce que c'est un avocat à l'aide juridictionnelle. Je pense qu'il faut vraiment casser ce préjugé parce que énormément d'avocats, beaucoup d'avocats qui ont beaucoup d'expérience sont également sur les listes de l'aide juridictionnelle, et que tous ces avocats sont des avocats qui sont spécialisés. Ça fait aussi partie du métier d'avocat d'être à l'aide juridictionnelle. L'avocat est auxiliaire de justice et on se doit de représenter tout un chacun, même les personnes qui n'ont pas les moyens de payer un avocat à des honoraires plus élevés. Je pense un point important. Deuxième chose que je voulais rajouter sur l'aide juridictionnelle, elle est tout le monde peut avoir accès à l'aide juridictionnelle, mais il faut quand même soit être citoyen français, soit avoir des papiers. C'est-à-dire que les sans-papiers, en principe, n'ont pas un droit à l'aide juridictionnelle, sauf pour contester les décisions de refus de titre de séjour. Voilà, c'était pour...
Et moi, j'avais une petite question, toujours concernant l'aide juridictionnelle. Est-ce qu'un avocat, du coup, qui accepte de prendre l'aide juridictionnelle, après peut demander des frais pour remplir des papiers, pour un complément de l'aide juridictionnelle ou des trucs comme ça?
Sauf aide juridictionnelle partielle, parce que il faut savoir aussi qu'il y a une convention d'honoraires qui est conclue entre l'avocat et le client pour qu'il soit bien informé justement à l'avance des honoraires qui seront dus, de la façon dont ces honoraires seront payés aussi, parce que faut pas hésiter aussi à discuter avec l'avocat si vous en êtes là de l'échelonnement du paiement des honoraires, parce que c'est aussi quelque chose qui peut être mis dans la convention.
Pardon, et la convention, elle est homologuée par l'ordre des avocats. Ça veut dire qu'on peut pas faire une convention d'honoraires comme ça. Ça passe par une forme de contrôle, en tout cas au niveau professionnel.
Mais par contre, si c'est de l'aide juridictionnelle totale et c'est indiqué sur la décision qui a été rendue par le bureau d'aide juridictionnelle, à ce moment-là, il n'y a pas d'autres frais. Enfin, c'est-à-dire que l'avocat a accepté de travailler uniquement à ce prix-là et il ne peut pas demander d'honoraires complémentaires ou quoi que ce soit. Il peut éventuellement, dans le cas, mais je pense en procédure de droit du travail ou autre, demander un honoraire de résultat. C'est-à-dire que si la procédure marche bien et que éventuellement ça doit pouvoir être possible. Mais par contre, c'est pour tout autre type de procédure, c'est tout en pris en charge par l'État. Alors, c'est pas bien pris en charge par l'État, ça c'est un autre problème, mais à la rigueur c'est le problème de notre profession. Mais à partir du moment où l'avocat accepte de travailler à l'aide juridictionnelle, parce que sur des villes comme Lyon, il y a pas d'obligation pour ça, c'est-à-dire que quand on veut pas travailler à ces tarifs-là, parce que c'est ça aussi la réalité, il y a pas d'obligation. Alors que je pense que dans des plus petites villes, pour le coup, il peut y avoir aussi une désignation d'office comme ça, mais c'est pas du tout le cas à Lyon où pour le coup les avocats qui font c'est un choix qu'ils font et du coup il faut qu'ils l'assument aussi jusqu'au bout. Donc, il n'est pas question de ça. Et par ailleurs,
Enfin, c'est pour revenir sur ce que disait Madeleine, c'est que, enfin, on a souvent l'idée aussi qu'un avocat qu'on paie pas a moins de travail sur le dossier, et de la même façon que un médecin qui accepte la CMU, enfin pour le coup il est un peu obligé, mais qui accepte la CMU, enfin va soigner la personne de la même façon. Enfin voilà, le dossier il est traité de la même façon que si c'est une personne qui paye et qui paye les honoraires habituels.
Je voulais simplement faire la petite différence entre l'aide juridictionnelle et l'avocat commis d'office, parce que c'est un peu dans le langage commun, on voit souvent les personnes confondre. Quand on parle d'avocat commis d'office, déjà c'est que au niveau pénal, c'est quand une personne est convoquée donc devant le tribunal correctionnel par exemple, et que elle n'a pas d'avocat et elle demande à ce qu'on lui commette d'office un avocat. Attention, avocat commis d'office, ça ne veut pas dire avocat gratuit. Donc après, il faut quand même remplir les conditions pour pouvoir bénéficier de l'aide juridictionnelle. C'est important de le savoir avant, mais en principe d'ailleurs c'est noté sur la convocation qu'on reçoit.
Et par ailleurs, enfin, en dehors de l'aide juridictionnelle, il y a aussi une possibilité qui est assez méconnue. Enfin, bien souvent, on le sait pas, mais il y a des protections juridiques qui sont, enfin, quand vous avez des contrats d'assurance, et parfois même avec des contrats d'assurance habitation, ce qui est logiquement, enfin, un contrat dont on est facilement détenteur, il y a souvent des garanties de protection juridique qui sont comprises dedans, et parfois qui peuvent prendre en charge, notamment tout le conseil, donc les procédures avant tout ce qui est intervention avant éventuellement la saisine d'un juge, et parfois aussi dans les procédures juridictionnelles, donc devant un juge. Alors, rarement les procédures pénales, en tout cas moi de ce que j'en ai vu, je n'ai pas beaucoup d'expérience en la matière, mais par contre dans certains domaines et qui permettent de prendre au moins une partie en charge pour les frais d'avocat. Pour le coup, dans ces cas-là, les honoraires de l'avocat sont libres et donc il peut très bien demander un paiement supplémentaire, mais par contre il y a une partie de ces honoraires qui peuvent être pris en charge. Ça vaut le coup de regarder parce qu'il y a bien souvent des personnes qui se retrouvent du coup qui sont au-dessus des plafonds de l'aide juridictionnelle. Donc, et l'air de rien, on sait que ça représente un coût certain et qui font pas jouer les contrats d'assurance, alors qu'il y a souvent des contrats dans lesquels ça peut fonctionner. Donc ça vaut la peine de se renseigner là-dessus, suivant les litiges.
Et pour terminer. Voilà, chaque émission, on vous présentera un mot. Un mot du lexique juridique. Un mot rigolo, enfin que nous en tout cas, on a trouvé rigolo quand on l'a découvert. Souvent, c'est vrai que les juristes ont tendance à pouvoir utiliser des mots qui sont pas dans la langue courante. Enfin, en tout cas, on a cette impression. Donc aujourd'hui, le mot que nous avons choisi, c'est le mot synallagmatique.
Waouh.
Et qui, en fait, peuvent être utilisés tous les jours, tellement on fait de contrats synallagmatiques au quotidien. Alors, synallagmatique, souvent, voilà, ça qualifie un contrat, une convention, par lesquelles deux personnes s'engagent réciproquement l'une envers l'autre. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, contrat de vente. Contrat de vente, il y a un acheteur, il y a un vendeur. L'acheteur s'oblige à verser une somme, le vendeur s'oblige à transférer la propriété de la chose. Quand vous allez déjeuner au restaurant, au snack, à la cafétéria, là aussi, vous formez un contrat synallagmatique, car vous vous engagez à payer ce que vous allez manger et le restaurateur s'engage à vous servir un repas. Voilà, donc c'est le petit mot du jour, synallagmatique.
Et voilà, et du coup, donc c'était notre première. Si vous avez d'autres questions, il y a 2 minutes encore, mais on pourra revenir dessus parce que probablement que c'est des questions, on a probablement été très vite sur plein de choses. La prochaine émission, on avait envie de la faire sur la séparation parentale, avec l'idée de travailler sur cette question-là. Puis après, on aura, et la suivante, ce sera sur les expulsions locatives.
Vous avez en tête la date de la prochaine émission ?
18 février en principe.